Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. D'accord. Pendant une formation de dialogue interculturel. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2008, au lieu de que ce soit de la théorie, on le pratique chaque jour. Pour moi, la priorité, c'est la famille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je viens de démissionner. C'est pour dire qu'il y a un moment, il faut savoir dire « c'est bon, je m'arrête parce que je dois revoir mes priorités ». 60% des enfants qui rentrent en primaire maintenant feront des métiers qui n'existent pas aujourd'hui.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Wadi Ait Hamza, une carrière axée sur, entre autres, les problématiques des jeunes, un engagement sans pareil. Il a été nommé à la tête du prestigieux réseau des Young Global Leaders, une consécration, mais surtout une reconnaissance. Wadi Ait Hamza a gravi donc les échelons petit à petit, le travail, l'effort et la persévérance. Wadi Ait Hamza, bonjour, un plaisir de vous recevoir.
Tout le plaisir est pour moi.
Merci beaucoup. Alors Wadi, question de nous mettre un peu dans le bain. Un petit flashback, on revient au banc de l'école, là où en quelque sorte notre parcours commence un petit peu à se dessiner. Ramenez-nous à cette période.
Oh, c'est une période qui, ça fait longtemps et des fois on oublie cette bonne période parce que c'est là vraiment où tout se dessine. Mmh. Alors j'étais né, grandi à Rabat, j'ai fait le collège Ibn Tufayl, lycée Cherif Idrissi à Rabat et par la suite j'ai eu l'occasion et l'honneur, si je peux me permettre, d'intégrer l'université Al-Akhawayn en réussissant le concours de bourse, mais aussi et avoir cette opportunité d'intégrer une université qui était différente et qui l'est encore par rapport aux autres universités. Et j'ai fait des études en coopération internationale et développement avec l'idée de représenter un jour mon pays aux plus hautes sphères à l'international. C'est comme ça que le petit parcours a commencé dans une école publique, à travers des institutions publiques et marocaines, que j'ai pu accéder aux plus hautes instances au niveau international, dans des organismes internationaux.
Et est-ce qu'on peut dire qu'à cette période de votre vie, Wadi, vous aviez une idée, grosso modo, de ce que vous vouliez faire sur le plan pro, c'est-à-dire que vous étiez un peu fixé, en quelque sorte?
Oui, j'étais fixé, mais heureusement qu'on peut changer. Ouais. Au départ, je me voyais en tant que diplomate, mais les choses ont fait que voilà, j'ai intégré une organisation internationale à Genève, en Suisse. Mmh. Et d'ailleurs, ce n'est pas grâce aux études, mais grâce aux activités étudiantines que je faisais à l'université. Okay. Et c'est là aussi l'importance de... Être actif dans une université, c'est primordial parce qu'on on peut avoir des compétences et qui sont en dehors de la classe. Et c'est comme ça que j'ai pu me forger, si je peux me le permettre, pour réussir mon travail. Mon travail actuel, c'est la continuité des activités étudiantines et rien à voir avec ce que j'ai étudié.
Et ces activités étudiantines, question de rapprocher un peu peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement, c'était quoi? Ça consistait en quoi? Vous faisiez quoi? Vous étiez engagé dans quoi?
Ben, on faisait un peu tout et n'importe quoi, si je peux me permettre. Mais on avait un club des explorateurs pour explorer la région de Ifrane, de Azrou. On faisait des sorties à pied chaque week-end. Mm-hmm. Ça permet de forger la personnalité, ça permet de nouer des relations avec des collègues et des pairs. Ça a été d'organiser des conférences, de créer le club diplomatique, j'ai créé le club Amazir de l'université Al-Akhawayn. Mmh. On a créé une petite radio pour les étudiants, une télé pour les étudiants, jusqu'à ce que j'étais élu par les étudiants en tant que président du gouvernement des étudiants. Et là, c'est un autre niveau. J'étais toujours là quand il y avait des activités officielles de l'université. Et je me rappelle très, très bien, par exemple, du jour où on a reçu la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'étais dans le comité d'organisation parce que j'étais très actif et vraiment organiser des événements comme ça. on peut pas l'apprendre dans des classes. C'est vraiment, je vois que ce que j'ai pu avoir comme compétence à l'université, c'est vraiment grâce aux activités et grâce à l'engagement que je faisais en dehors des classes. Bien sûr, c'est très important de suivre le parcours, mais ce n'est pas que la chambre bibliothèque, mais c'est qu'est-ce qu'on fait en créant des activités au sein du campus.
C'est vrai, et ça impacte notre carrière de façon à long terme, en quelque sorte. Ce n'est pas que sur le court terme, c'est vraiment à long terme.
Tous les métiers que j'ai pu exercer jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à la réputation que je me suis faite en étant actif.
Ouais.
En étant un étudiant actif, en étant celui qui organise, celui qui rassemble, celui qui fait des choses pour les autres.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on m'appelle, on a entendu parler de vous, est-ce que vous voulez intégrer notre instance, que ce soit dans le privé ou au sein de l'organisme international où je viens d'exercer pendant 10 ans des fonctions au niveau international.
Alors, Wadi, il y a des grandes études, un engagement, de l'enthousiasme, la persévérance, etc. Premier pas dans l'univers professionnel cette fois. Est-ce que vous vous en rappelez? C'était quoi? Et surtout, est-ce que vous en gardez un bon souvenir?
Oui, et surtout, c'était mon premier métier, c'était au sein même de l'université de la Hawaï. Parce que comme ils me connaissaient très bien, ils m'ont vu, ils m'ont dit, on ne te laisse pas.
On ne te laisse pas partir.
On ne te laisse pas partir. Et c'est comme ça que mon premier métier, c'était même, j'ai signé avant de finir mes études, j'étais responsable des échanges internationaux de l'université, afin de nouer des partenariats avec des nouvelles universités et de créer des passerelles pour les étudiants pour passer soit un semestre, soit une année à l'international afin de voir autre chose que juste ce qu'on voit au campus où on étudie pendant 4 ou 5 ans. Ça, c'était mon premier métier et j'en garde de très bons souvenirs parce que j'ai continué à vivre en tant qu'étudiant dans le campus, mais en ayant un salaire.
C'est excellent. C'est vraiment la combinaison parfaite.
Exact, exact.
Et par la suite, comment les choses se sont enchaînées après ce premier pas dans l'univers professionnel au sein de l'université même? C'était quoi la suite pour vous?
J'ai décroché une bourse pour participer à un master en affaires euro-méditerranéennes, qui était un peu la suite logique de mon parcours académique. Et c'était intéressant. Ce qui m'a intéressé dans ce master, c'est qu'on passait un semestre par pays dans le pourtour méditerranéen. Et c'était un master aussi qui était dispensé par 16 universités,
d'accord,
avec chaque cours un professeur du Nord et un professeur du Sud. Et c'était l'épogée des relations méditerranéennes avec le processus de Barcelone, avec tout ce qui était dans la sphère de sécurité, relations internationales, commerce, relations politiques entre les gouvernements.
Mmh.
Et ça, c'était un peu la suite logique de mes études. Et en étant étudiant dans le master euro-méditerranéen, avec les activités que je faisais, j'étais sélectionné pour être le délégué du Maroc pour le premier parlement euro-méditerranéen des jeunes, qui avait une session en Égypte et une session en Allemagne à Berlin, sous la présidence allemande de l'Union européenne. Et ça m'a ouvert le réseau de la Ligue arabe et j'étais sélectionné en tant que jeune consultant dans le comité consultatif de la Ligue arabe et par la suite avec des formations au sein du Conseil de l'Europe, au sein de la Ligue arabe, on a créé la première conférence euro-arabe des jeunes. C'était surtout un moment très intéressant et on voulait créer quelque chose entre les jeunes pour un dialogue interculturel. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse,
d'accord,
pendant une formation de dialogue interculturel.
Excellent.
Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2008, au lieu de que ça soit de la théorie, on le pratique chaque jour.
C'est excellent. Et c'est le destin fait bien les choses, finalement.
Exact.
Et donc, Wadi, petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Petit à petit aussi, vous avez donc gravi les échelons pour arriver à la tête du Young Global Leaders. Comment ça s'est passé? Mais aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent, en quoi consiste votre mission? Question de les familiariser un petit peu avec votre mission, tout simplement, et votre domaine d'expérience et d'expertise.
Alors, il y a exactement 12 ans, le Forum économique mondial, à travers la réputation que j'avais en tant que jeune actif, ils m'ont contacté pour lancer le premier réseau des Global Shapers au niveau du Maroc. La Global Shapers Community, c'est une communauté de jeunes moins de 30 ans et qui font des projets au niveau local. Aujourd'hui, la communauté, elle est présente dans 550 pays à travers le monde. Et au Maroc, on a de la communauté à Al-Aïn, à Rabat, El Jadida, Salem, Marrakech, ainsi de suite. Et c'est des jeunes vraiment patients qui créent des projets au niveau local et qui créent des opportunités pour les jeunes à travers le monde. Et j'ai créé le réseau. 2 ans par la suite, ils m'ont un peu convaincu d'être le responsable du réseau au niveau de la région MENA. Et c'est comme ça que je suis parti à Genève, en Suisse, pour être en charge du réseau MENA. Et les 10 ans que j'ai passé au sein du Forum économique mondial, j'étais le responsable pour la région MENA, après la région Amérique latine, après la région Amérique du Nord, pour qu'en 2017, le professeur Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial et président, m'a nommé en tant que directeur global de la communauté des Global Shapers. Et j'ai exercé ces fonctions pendant 5 ans, jusqu'à l'année dernière, où encore le professeur Klaus Schwab m'a nommé en tant que directeur de la fondation des Young Global Leaders, qui est à peu près la même chose en étant différente, c'est que les Global Shapers, on se focalise sur les équipes au niveau local et comment on peut créer des opportunités pour eux. Les Young Global Leaders, c'est une sélection des 100 meilleurs jeunes moins de 40 ans à travers le monde. D'accord. Et quand on parle de 100 meilleurs, c'est vraiment à très haut niveau. C'est des chefs d'État, c'est des chefs d'entreprise, c'est des artistes qui sont en train de faire plus que leur travail et qui s'engagent pour eux s'améliorer en tant que personne. C'est-à-dire, notre travail au sein de la Fondation était vraiment de créer un espace de confiance où ces gens-là, à très haut niveau, peuvent redevenir humains et dire « j'ai des lacunes, j'ai besoin de m'améliorer dans ce genre de trucs ». Et c'est un espace où il n'y a pas de protocole, on ne ramène pas son titre. Et vraiment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de réseau? Vraiment, il est considéré le plus exclusif réseau dans le monde en termes de compétences et en termes de ce qu'on peut faire. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les mettre en confiance, de leur dire que ce n'est pas la fin de leur carrière, qu'ils peuvent faire mieux, qu'ils peuvent s'engager plus à travers soit des ce qu'on appelle educational module. On les emmène dans des universités afin de s'améliorer dans des nouveaux métiers ou nouvelles tendances, comme par exemple maintenant l'intelligence artificielle, le changement climatique, le net zero. D'ailleurs, juin dernier, j'ai ramené une trentaine de Young Global Leaders à l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guirir pour voir comment on peut faire du business en Afrique. On a des education modules à Harvard, à Princeton, à Yale et ainsi de suite. Et on fait aussi des sorties. Par exemple, cet été, on a fait une sortie au pôle Arctique pour voir vraiment c'est quoi le changement climatique et comment il impacte des gens qui vivent dans des endroits qui sont très sensibles, comme l'Arctique ou comme l'Amazonie ou comme l'Afrique. Voilà, c'est créer des activités où eux, ils peuvent se renseigner, apprendre, se challenger en tant que personne afin de dire qu'on va impacter leur métier et leurs institutions.
Exactement, et ça permet aussi de se réinventer en quelque sorte.
Exact. Et c'est un réseau incroyable. Aujourd'hui, il est d'à peu près de 1500 personnes. C'est des personnes comme Jack Ma en passé, Mark Zuckerberg de Facebook, président Emmanuel Macron, le président d'Équateur, Sanna Marin de Finlande, et j'en passe. C'est vraiment un réseau impressionnant. Mais tout d'abord, c'est des gens qui disent que oui, je dois m'engager afin de m'améliorer, même si je suis à des positions dans le business ou dans la société civile ou dans le sport, et de dire « c'est pas la fin, je dois m'améliorer, il y a un développement professionnel et personnel qui doit être tout le temps de mise afin de s'assurer qu'on a un impact dans ce monde ».
Quand il y a de l'authenticité et de la vulnérabilité, ça ne peut que marcher finalement. Qu'on a des carapaces, etc. Mais quand on fait preuve d'authenticité et qu'on laisse notre côté vulnérable un petit peu sortir de cette carapace, on ne peut qu'impacter par la suite finalement.
Exact. C'est vraiment, il faut être authentique. Nous, on était autour de, des valeurs comme l'authenticité, comme la vulnérabilité, comme la coopération, très important.
Exact.
On peut être en désaccord, mais le seul moyen, c'est le dialogue.
Ouais.
C'est avoir des canaux de communication. Et nous, à travers cette communauté-là, on a réussi vraiment à résoudre des crises qui pouvaient vraiment impacter le monde.
Ouais.
De dire, on laisse nos égos à part, on laisse nos titres à part, venez, on est semblables. Il n'y a pas de différence entre un Américain, un Chinois et un Japonais, un Ukrainien et un Russe, et de dire, il faut s'asseoir, il faut dialoguer, il faut poser l'humain au centre de tout ce qu'on fait. Et à travers ça, on a réussi à nouer des relations, mais aussi créer des opportunités, créer des initiatives, créer des projets qui peuvent impacter. Par exemple, un des derniers projets sur lequel on a travaillé, c'est à Kakuma, qui est le deuxième plus grand camp de réfugiés dans le monde, où on a ramené des Young Global Leaders. On a dit, c'est pas une visite touristique. Il y a 200 000 réfugiés qui vivent, qui n'ont pas le droit de quitter ce camp.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils ne peuvent pas quitter, mais le monde peut venir à eux. Il y a, à travers un YGL qui est haut placé dans l'université d'Oxford, on a ramené le premier Executive Education dans un camp de réfugiés. OK, les étudiants ne peuvent pas venir à l'université, bah, l'université vient à eux. On a ramené des gens pour aider les filles, par exemple, à savoir coder. Parce que s'ils savent coder, elles peuvent travailler du camp de réfugiés avec des grandes entreprises et pas la peine de dire qu'on a besoin des permis de séjour ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être innovant et créer des opportunités à travers les activités qu'on est en train de faire et ne pas dire que voilà, on va juste visiter pour visiter. Il faut, comme on dit en anglais, walk the talk.
Et avoir de l'impact aussi, c'est ça le but finalement. Wadi Ait Hamza, un parcours donc riche, beaucoup d'efforts, de dur labeur. Quel a été le rôle de votre entourage, sur une note un peu plus perso, dans votre réussite ou votre épanouissement professionnel? Et de façon peut-être plus globale, par la suite, est-ce que vous pensez que nous sommes le fruit de notre entourage?
Je dirais même pas c'est 1000%, c'est 1 000 000% que je suis d'accord avec vous. L'entourage fait de nous ce qu'on est. On est le reflet de notre entourage. Si on s'entoure de 5 personnes qui sont meilleures que nous, on devient meilleur. Si on s'entoure avec des personnes malfaisantes, bah, on va devenir la même chose. C'est-à-dire, c'est un choix de s'entourer avec les personnes qui, si je peux me permettre, nous méritent.
Ouais.
Et de dire, c'est mon entourage qui va m'ouvrir. Il y a un dicton qu'on fait les formations de networking ou de réseautage. C'est pas ce que vous savez qui est intéressant, c'est qui vous connaissez. Et si qui vous connaissez, c'est votre réseau, c'est votre entourage. C'est-à-dire la sélection des personnes. Ben, c'est pour ça, je donne toujours l'exemple, 1 plus 1 égale à 2 à Harvard, égale à 2 à Mogadiscio, égale à 2 en Chine. C'est le réseau que vous créez dans ces bulles, si je peux me permettre, qui fait de vous ce que vous êtes. Et, c'est un choix de s'entourer des personnes qu'on veut.
C'est vrai.
Ça, moi, j'y crois à 1000%.
Ouais.
L'entourage, il y a des gens que vous ne choisissez pas, c'est vos parents, mais il y a des gens que vous choisissez. C'est
exact.
Votre partenaire de vie, c'est vos amis, c'est avec qui vous socialisez quand vous ne travaillez pas. Et ça, c'est très, très, très important.
Et votre famille, Wadi Ait Hamza, il y a eu, j'imagine, beaucoup de fierté par rapport à ce que vous avez réussi à concrétiser durant votre parcours professionnel.
Moi, je dirais, c'est moi qui est fier de leur offrir ce que j'ai fait pour les sacrifices qu'ils ont faits.
Ouais.
Je ne le vois pas qu'ils doivent être fiers de moi. C'est moi qui dois être fier de les avoir dans ma vie, dans mon parcours, parce qu'ils m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui.
Donc vous êtes le fruit de votre entourage finalement, Wadi Ait Hamza.
Exact. Exact. Surtout les sacrifices des parents, des frères et sœurs, de mon épouse, de mes enfants. Des fois, on voyage non-stop et des fois, il faut aussi se poser la question, est-ce que ça vaut la peine le travail qu'on fait? Et de dire qu'est-ce qui est la priorité.
Ouais.
Pour moi, la priorité, c'est la famille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je viens de démissionner. C'est pour dire que voilà, j'ai fait 10 ans de ce travail. C'était magnifique. Mais il y a un moment, il faut savoir dire c'est bon, je m'arrête parce que je dois revoir mes priorités dans la vie. Si je peux le dire, dans 10 ans, personne ne va se rappeler que j'ai travaillé jusqu'à 9h du soir aujourd'hui. Voilà,
vrai.
Mes enfants, ils vont se rappeler de ça. Et de dire, si c'est un choix qu'on le fait avec en conscience, c'est parfait, c'est pas grave. Mais il faut savoir de temps en temps s'arrêter, recalibrer les aiguilles et avancer de l'avant.
Et c'est quoi la suite en parlant d'avancer de l'avant pour vous, Wadia Ait Hamza, après avoir démissionné justement, vous voyez quoi pour l'avenir?
Vraiment, c'est aucune idée. Ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose. Mmh. Une bonne chose parce que je veux prendre la bonne décision d'un parcours professionnel qui sera à la hauteur de mes attentes, surtout de mes valeurs, parce que ça, c'est très important, d'avoir des valeurs qui sont enracinées dans notre culture, dans ce qu'on nous a inculqué nos parents et nos institutions, mais aussi de dire où j'aurai le plus d'impact. Peut-être c'est de revenir au même niveau ou au même mode de travail. Peut-être c'est autre chose en étant entrepreneur. Peut-être c'est rejoindre une institution et essayer de les aider à avancer. Mm. Mais c'est le plus important pour moi, c'est de prendre le temps d'écouter mon corps, d'écouter mes valeurs et de dire c'est quoi la prochaine étape d'une manière prise en pleine conscience, au lieu que ça soit quelque chose qui est mis sur notre tête, si je peux me permettre, et on n'a pas de choix.
Bon, en tout cas, on vous souhaite que des belles choses pour cette prochaine étape, Wadia Ait Hamza. Cette fois, peut-être un petit message ou un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont qui seraient éventuellement coincés dans des jobs qu'ils n'aiment pas forcément, ou peut-être aussi les plus jeunes qui hésitent entre aimer ce qu'on fait ou faire ce qu'on aime.
Pour moi, c'est très important qu'on se réveille et qu'on se dise « Waouh, une très belle journée est devant nous parce que j'aime ce que je fais. » Et il n'est jamais trop tard de changer. Ouais. Le changement, c'est très positif. C'est une ère volatile où il y a plein d'ambiguïté, il y a plein de complexité, il y a plein d'incertitudes, mais c'est une opportunité en or. Ouais. Il y a un rapport qui vient de sortir il y a à peu près 2 ans au WEF qui disait que 60% des enfants qui rentrent en primaire maintenant feront des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'on sera poussé, n'importe ce qu'on fait aujourd'hui, à se reformer. C'est une occasion en or de le faire en plein choix que de le faire par obligation. C'est une opportunité d'embrasser les nouvelles technologies de la 4e révolution industrielle. Tout le monde maintenant entend parler de l'intelligence artificielle et de son impact. Ouais. Elle va détruire 80 millions d'emplois à travers le monde, mais elle va en créer 130 millions. Dans quelle catégorie on veut être, c'est notre choix. C'est notre choix qu'on peut prendre n'importe quand. Mais est-ce que c'est une obligation ou un choix? Ça, c'est à nous de voir. On peut rester ici et travailler avec ces pays. Et vraiment, c'est enraciner nos valeurs, avoir une aiguille qui regarde une sorte de compass étoile du Nord. C'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme objectif dans notre vie. Mais aussi, il faut être intelligent et avoir un GPS et voir les challenges qui sont devant nous, dévier un petit peu. Mais il y a toujours la compass qui nous ramène vers notre étoile du Nord, qui est notre objectif.
Voilà, c'est sur cette très très belle note que se referme notre échange. Wadia Ait Hamza, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et je vous souhaite beaucoup,
beaucoup de belles choses. Tout le plaisir et l'honneur
pour moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.